Une caractéristique évidente du ministère de Jésus, c'est qu'il attirait les foules, des grandes foules, des énormes foules. La Bible les appelle la multitude. Un jour où Jésus prêchait, il est dit qu'après avoir prêché, il devait nourrir 5000 hommes. Mais on ne nous dit pas combien il y avait de femmes et d'enfants, mais je pense que s'il y avait 5000 hommes, alors il y avait probablement au moins 5000 femmes et peut-être 5000 enfants. Donc il y avait probablement 15000 personnes qui étaient présentes quand Jésus a parlé. Matthieu 4:25 dit ceci, « Des grandes foules suivirent Jésus partout où il allait. » En lisant la Bible, je m'aperçois que le ministère de Jésus avait la qualité d'attraction. Il attirait des gens vers lui. Les non-croyants étaient attirés vers Jésus pour l'entendre parler et pour le voir aider les gens. Et il se déplaçait en grande foule partout où il allait. Je crois qu'un ministère comme Christ attire toujours les foules de nos jours. Je crois que votre église peut grandir et que vous pouvez avoir une foule dans votre église si vous faites ce que Jésus a fait. Vous n'avez pas besoin de faire des tours de magie pour attirer une foule dans votre église. Vous n'avez pas besoin de compromettre vos convictions ou de diminuer la valeur du message pour attirer les gens dans votre église. Et vous n'avez certainement pas besoin d'avoir un bâtiment pour attirer les gens dans votre église. Mais vous devez toucher les gens comme Jésus le faisait. Et comment Jésus faisait cela? Comment Jésus s'y prenait-il pour toucher les foules? Il faisait trois choses. Premièrement, il aimait les gens. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion, parce que les gens étaient fatigués et découragés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus attirait les gens parce qu'il les aimait. Et une église qui aime va toucher beaucoup de personnes. Mais ça, c'est juste la première chose. La deuxième chose que Jésus a faite, c'est qu'il répondait à leurs besoins. Dans une session précédente, on a parlé du fait que Jésus posait souvent la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il répondait à leurs besoins de manière pratique. Quand les gens étaient malades, il les guérissait. Quand les gens étaient dans la peine, il les aidait. Quand les gens avaient un besoin dans leur vie, il répondait à ce besoin. Et une église qui répond aux besoins des gens dans leur communauté, dans leur quartier, dans leur village ou dans leur ville, va gagner des gens à Christ. Et la troisième chose que Jésus a fait, c'était de les enseigner de manière intéressante et pratique. La Bible dit dans Marc, chapitre 12, verset 37, qu'une grande foule écoutait Jésus avec plaisir. Je crois que ces trois ingrédients, aimer les gens, répondre à leurs besoins et les enseigner de manière intéressante et pratique, sont des moyens qui aideront votre Église à attirer une foule de personnes pour qu'elles puissent grandir, prospérer et pour qu'elles puissent être dans la volonté de Dieu. Tel que je l'ai dit, le ministère de Jésus attirait des grandes foules. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 14, verset 23, que Dieu veut que sa maison soit pleine, parce qu'il veut toucher tout le monde. La Bible dit, le Seigneur veut que personne ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Et donc on continue à grandir en tant qu'Église, non pas parce qu'on veut voir une grande Église, ce n'est pas la bonne motivation. On grandit parce que les gens ont besoin du Seigneur, parce que tous les gens qui ont besoin de Jésus doivent le connaître et doivent faire partie de son Église. À partir du moment où il y a quelqu'un dans votre quartier, dans votre village ou dans votre ville qui ne connaît pas Christ, votre Église doit continuer à grandir. C'est un commandement de Dieu. La grande mission dit qu'on doit aller parler à tous les gens de la bonne nouvelle. Aucune église ne peut grandir sans qu'il y ait de nouvelles personnes qui y viennent. La question c'est, que faites-vous pour que les gens viennent à votre église? Comment attirez-vous une foule? J'aimerais partager avec vous quelques exemples pratiques pour faire cela. Mais avant cela, je voudrais partager avec vous des vérités sur la louange, parce que c'est l'objectif dont nous allons parler durant cette session. Comment dois-je louer et comment puis-je créer un service de louange à but évangélique pour que les gens viennent à Christ? Je vais vous donner 12 principes de base tirés de la parole de Dieu. Premièrement, seulement les croyants peuvent vraiment louer Dieu. La louange vient des croyants et va vers Dieu. Dieu et non l'homme est le centre de la louange. Bon, laissez-moi vous donner une définition de la louange. La louange, c'est exprimer notre amour à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il a dit. Et les non-croyants ne peuvent pas faire cela. C'est impossible pour quelqu'un qui ne croit pas en Christ dans son cœur et qui n'a pas pris d'engagement envers Christ de louer. Donc seulement les croyants peuvent louer. Deuxièmement, vous n'avez pas besoin d'un bâtiment pour louer Dieu. Actes chapitre 17, verset 24 dit, Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, c'est le Seigneur du ciel et la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par les êtres humains. C'est ce qui différencie le christianisme de toutes les autres religions. La plupart des religions disent que vous devez aller dans un temple pour aller adorer Dieu. Mais Jésus a dit que le temple, c'est votre propre corps et le Saint-Esprit habite en vous. Donc vous n'avez pas besoin de bâtiment pour louer Dieu. Et à l'église de Saddleback, l'église dont je suis pasteur, notre église a grandi tant et tellement que plus de 10 000 personnes louaient ensemble, bien avant que nous ayons construit un bâtiment. Troisièmement, il n'existe pas de style de louange correct. Jésus nous a seulement donné deux conditions pour une louange sincère. Dans Jean chapitre 4, verset 24, il a dit ceci, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité. Ce sont les deux seules conditions pour une louange qui plaît à Dieu. On doit louer en esprit et aussi en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En esprit signifie que je dois louer de tout mon cœur. Ça ne peut pas être un rite mort ou bien des mots morts. Je ne peux pas dire quelque chose et ne pas vraiment y croire dans mon esprit ou dans mon cœur. Je dois louer Dieu sincèrement avec mon esprit. Et ensuite, je dois louer Dieu en vérité. Ça signifie qu'il faut que ce soit basé sur ce livre, la parole de Dieu. Quand nous développons une louange qui n'est pas basée sur la Bible, mais qui est basée sur des traditions, ou qui est basée sur une expérience, ou simplement sur quelque chose que j'aime faire, alors ce n'est pas une vraie louange. La vraie louange est basée sur la vérité de la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'on a des répétitions de louanges, on doit se demander, est-ce que c'est basé sur la Bible? Si ce n'est pas basé sur la Bible, alors on ne devrait pas louer, parce que ce n'est pas une vraie louange. Bon, une fois que vous avez décidé que votre louange doit se faire en esprit et en vérité, je crois que Dieu donne beaucoup de liberté dans la manière dont on le loue. On peut louer vigoureusement ou paisiblement. On peut louer avec beaucoup d'émotion ou sans émotion. Dans le monde entier, Jésus-Christ est loué chaque dimanche dans des milliers de styles de louanges différents. Et la façon dont il est loué en Afrique est différente de la façon dont il est loué en Europe, et de la façon dont il est loué en Asie, ou de la façon dont il est loué en Amérique du Sud, ou en Australie, ou en Amérique du Nord, ou ailleurs. La plupart des débats au sujet des styles de louange sont basés sur des préférences personnelles. Ce n'est pas une question de vrai ou faux. Et il est intéressant de voir que chaque église aime penser « la manière dont nous louons, c'est la bonne manière ». Mais la Bible dit que quand c'est fait en esprit et en vérité, alors ça va. Je vous donne maintenant le quatrième principe. Quatrièmement, les non-croyants ne peuvent pas louer, mais ils peuvent observer les croyants louer. Et ça, c'est un point très important. Même si un non-croyant ne peut pas louer Dieu, il est quand même formidable d'inviter des non-croyants à nos services de louange. Et pourquoi les inviter? Parce qu'ils peuvent voir la joie que nous ressentons. Ils peuvent voir comment nous valorisons la parole de Dieu, combien elle nous touche et transforme nos vies. Ils peuvent voir comment on répond à sa parole, et elle a de la valeur et on la respecte. Ils peuvent entendre comment la Bible répond aux questions de base de la vie et répond aux problèmes de base de chaque personne. Et ils peuvent remarquer à quel point la louange encourage et fortifie et peut nous changer. Ce que je veux dire, c'est que la louange est aussi un témoignage, que les services de louange peuvent en fait amener des gens à Christ, bien que ce soit le croyant qui loue Dieu. Voici le cinquième principe. La louange est un témoignage puissant pour les non-croyants si... Et voilà la condition. Si la présence de Dieu est ressentie et si le message est compréhensible, ces deux choses-là sont nécessaires pour que le service de louange soit efficace pour toucher les non-croyants. La présence de Dieu doit être ressentie et la parole de Dieu doit être compréhensible. Si vous regardez dans Actes chapitre 2, où on nous raconte l'histoire du jour de la Pentecôte, on voit que la présence de Dieu était tellement ressentie pendant le service de louange, pendant la louange des apôtres, que ça a attiré l'attention de toute la ville. En fait, nous savons qu'une grande foule était venue dans ce service de louange parce qu'il nous a dit que 3 000 personnes furent sauvées en un jour. Dans Actes chapitre 2, verset 6, il est dit « Les gens s'assemblèrent en foule. Pourquoi se sont-ils assemblés? Parce que la présence de Dieu était là. » Mais en plus de la présence de Dieu qui était ressentie, le message de Dieu était compréhensible. Et je crois que ces deux Ces deux éléments sont essentiels à la louange. Pour une louange sincère, le message doit être compréhensible. Vous vous souvenez que dans cette histoire, il est dit que chaque personne venant de différentes régions ont entendu la parole de Dieu dans leur propre langue. Bon, il se peut que ce miracle ne se produise pas dans votre service, mais le principe est le même. Le message doit être compréhensible. Nous ne pouvons utiliser que des expressions religieuses et présumer que les gens comprendront la parole de Dieu. Quand les gens ressentent la présence de Dieu, quand la puissance de Dieu est manifestée, et quand la parole de Dieu est compréhensible, alors c'est un climat parfait pour l'évangélisation. Sixièmement, Dieu désire que nous soyons sensibles aux craintes et aux besoins et aux questions des non-croyants lorsqu'ils viennent à nos services de louange. C'est un principe que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul dit ceci à l'Église. Il dit, « Si l'Église entière s'assemble, et si tout le monde parle en langue, et que certains ne comprennent rien, ou que des non-croyants sont présents, ne diront-ils pas que vous êtes fous? » Qu'est-ce que Paul veut dire? Paul dit dans ce passage que le don de langue devrait être limité à la louange publique. Son raisonnement, c'était que cela n'était pas compréhensible pour un non-croyant. Paul ne dit pas que les langues sont absurdes. Non, il ne dit pas ça. Il dit que c'est de cette façon qu'un non-croyant les perçoit. Et il dit que quand des gens non-croyants sont présents dans nos services, nous devons être prêts à adapter notre louange afin de les gagner à Christ. Je vais vous donner un exemple de cela. Quand ma femme et moi dînons ensemble avec nos enfants, elle prépare le repas. Par exemple, elle prépare un plat de haricots. Et nous nous asseyons et nous mangeons ce repas ensemble. Mais parfois, quand nous avons des invités chez nous, le repas est un peu différent. Nous pouvons avoir le même plat de haricots pour le dîner. Mais nous le servirons de manière un peu plus distinguée. Nous sommes plus conscients que nous avons des invités avec nous, des visiteurs avec nous. Donc nous sommes plus polis et nous servons les invités d'abord. C'est la même nourriture, mais nous la servons de manière différente parce qu'il y a des invités avec nous. C'est exactement la même chose quand nous invitons des non-croyants à notre service de louange. Nous invitons un non-croyant à un service de louange et le message de Dieu peut être le même. On ne change pas la parole de Dieu. Non, non, non. Le message ne doit jamais changer. La Bible dit dans le livre de Jude, la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. On ne doit jamais changer le message, mais on peut changer la manière dont on le partage. On peut utiliser des mots différents, on peut le partager de manière plus simple ou d'une manière plus familière pour qu'ils comprennent plus facilement, pour qu'ils comprennent le message. Nous ne sommes pas des hypocrites. Nous sommes seulement polis. Ainsi, vous montrez que vous respectez vos invités. Septièmement, le septième principe, c'est qu'un service de louange n'a pas besoin d'être superficiel pour que les visiteurs puissent s'en sentir à l'aise. Vous n'avez pas besoin de changer le message pour toucher des non-croyants. Le message ne doit pas être compromis. Il doit seulement être compréhensible. Quelquefois, il est vrai que quand vous partagez la parole de Dieu, ça peut les mettre mal à l'aise. Quand Jésus a dit « Vous devez porter votre croix, renoncer à vous-même et me suivre », ce ne sont pas des paroles faciles. Quand Jésus a dit « Vous devez abandonner tout ce que vous avez et me suivre », ce ne sont pas non plus des paroles faciles. Je ne veux pas dire que vous devez changer les paroles de Jésus. Je veux dire qu'une personne non-croyante ou un visiteur dans votre service de louange doit se sentir à l'aise. Dans la manière dont nous l'accueillons, dans les mots que nous utilisons, et ayant des prières qu'ils puissent comprendre, en lisant des passages dans la Bible et leur expliquer pour qu'ils puissent plus facilement les comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer que les besoins des croyants et les besoins des non-croyants sont souvent très différents. Mais dans certains domaines, ils sont souvent les mêmes. Par exemple, les croyants, tout comme les non-croyants, ont besoin de savoir comment construire une famille solide. Les croyants et les non-croyants ont besoin de savoir comment faire face aux problèmes de la vie. Les croyants et les non-croyants ont besoin de savoir comment agir face à l'inquiétude, la culpabilité et la crainte. Les croyants et les non-croyants ont besoin de savoir si Dieu existe et à quoi il ressemble. les croyants et les non-croyants ont besoin de savoir « Est-ce que Dieu a un plan pour ma vie ?» Et donc, quand vous préparez un service pour l'évangélisation, pour pouvoir y amener des non-croyants, vous devez parler des sujets qui concernent aussi bien les croyants que les non-croyants. Et parler des sujets qui concernent seulement les croyants dans un autre service qui est préparé spécialement pour eux. Les chrétiens restent toujours humains, après avoir été sauvés. Ils ont exactement les mêmes besoins que tout le monde, et nous devons aborder ces sujets. Neuvièmement, il est préférable de spécialiser vos services selon les objectifs. Au cours de cette conférence, on vous a expliqué comment construire votre église sur les 5 objectifs de Dieu. Et tout comme on a déjà parlé de l'évangélisation, on parle maintenant de la louange. Il est parfois efficace. En fait, il est très efficace de préparer un service spécial pour des objectifs spécifiques. Vous pouvez planifier un service pour gagner les non-chrétiens au Seigneur et planifier un autre service pour aider les croyants à grandir dans leur foi. Ce sont deux cibles différentes et donc deux services différents. Souvent, en tant qu'Église, nous essayons de faire ces deux choses en même temps. Nous essayons de toucher les croyants adultes dans leur foi, et de toucher les non-croyants en même temps. Mais si vous envoyez des messages mitigés, vous allez voir des résultats mitigés. Il est plus efficace de spécialiser vos services. J'ai appris cela en grandissant dans une famille chrétienne. En fait, mon père était pasteur. Et quand je grandissais et allais à l'église, je ne savais jamais, d'une semaine à l'autre, si c'était une bonne semaine pour amener mes amis non-chrétiens à l'église. Quelquefois, j'amenais un ami non-chrétien à l'église et mon père prêchait un sermon sur la maturité spirituelle. Et pour un non-chrétien, cela n'avait pas de sens. Il ne pouvait pas comprendre. Et quand je prêchais, mon père prêchait, par exemple, sur donner ou sur le jeûne, ou bien sur la prière, ou sur la façon d'étudier la Bible. Mon ami non-chrétien me disait, ça n'a pas de sens. Et d'autres fois où je n'avais pas amené d'amis non-chrétiens à l'église, mon père prêchait sur l'évangile, le message du salut, et comment devenir chrétien. Et je n'avais pas d'invité d'amis cette semaine-là. Donc je ne savais jamais d'une semaine à l'autre si c'était une bonne semaine pour amener un ami. Il y a sûrement des gens dans votre église qui aimeraient bien inviter leurs amis non-chrétiens à un service, s'ils savaient qu'il y avait un service spécialement conçu dans le but d'évangéliser. S'ils savaient qu'en invitant un ami à ce service, cette personne serait capable de comprendre les chants, que les messages seraient compréhensibles pour un non-chrétien, que le plan de salut serait partagé de manière simple et pratique, et que leur ami ne serait pas gêné du tout. Il se sentirait à l'aise parce qu'il pourrait comprendre tout ce qui se passe. Même dans les églises qui prêchent des messages évangéliques, très souvent, tout le reste du service est conçu pour les croyants. Et donc les prières sont faites par des croyants pour des croyants, et les chants sont chantés par des croyants pour des croyants, ainsi que tout le reste de la discussion, les annonces et les témoignages apportés. Et puis quand vous arrivez au message évangélique, cette personne non chrétienne ne vous écoutera plus, parce que vous aurez perdu toute son attention. Lorsque j'ai fondé l'église de Saddleback Valley Community, l'église dont je suis le pasteur, j'ai rassemblé un petit nombre de croyants, et je leur ai dit, à votre avis, quel est le meilleur jour de la semaine pour que les gens amènent un non-croyant dans un service? Eh bien, en Amérique, ils ont dit le dimanche matin. C'est peut-être différent pour vous, c'est peut-être différent là où vous habitez, mais en Amérique, c'est le dimanche matin. Et puis j'ai demandé, quel est le meilleur jour de la semaine pour qu'un non-croyant assiste à un service? Ils ont répondu, dans notre culture, c'est le dimanche matin. Ça aussi, peut-être pour vous, c'est différent. Donc j'ai dit, bon, nous allons organiser deux services par semaine. Un service pour les chrétiens qui grandissent, et un service pour toucher les non-croyants. Et ils ont dit, super. Et donc dans notre église, le service du week-end, le service du dimanche, et même le service du samedi, nous en avons 4 au total, sont conçus pour que les gens y amènent leurs amis non-chrétiens, les non-croyants. Et tout le service est conçu pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Christ. Et ensuite, notre service du milieu de la semaine, le mercredi soir, est spécialement conçu pour les croyants. Il est conçu pour aider les chrétiens à grandir et approfondir leur foi en Dieu, à devenir adultes et à devenir conformes au plan de Dieu. Nous avons trouvé qu'en répartissant les services de cette manière, au lieu d'essayer de les mélanger et d'avoir les deux en même temps, nous avons été beaucoup plus efficaces pour aider les chrétiens à grandir et pour aider les non-chrétiens à venir à Christ. Donc je suggère que vous spécialisez ainsi vos services. Deuxièmement, un service de nature évangélique doit pouvoir compléter l'évangélisation personnelle et de nombre la remplacer. Le but d'un service de nature évangélique n'est pas de dire, d'accord, vous ne devez plus continuer à partager votre foi, vous ne devez plus discuter avec les gens, oh non, 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 non. Mais on trouve que les gens trouvent qu'il est plus facile d'accepter Christ quand ils prennent cette décision dans le contexte d'un groupe, car il y a d'autres personnes autour d'eux qui le soutiennent. Et donc nous avons trouvé que les gens viennent à Christ plus rapidement quand, premièrement, quelqu'un partage la bonne nouvelle avec eux personnellement, quand on partage un témoignage, on leur explique personnellement comment recevoir Christ, et ensuite, en même temps, quand nous les amenons à un service qui est conçu pour les non-croyants. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Quand je partage ma foi avec un non-croyant au travail ou dans ma communauté ou bien au marché, ou quand je partage ma foi avec mes voisins, ensuite je leur dis « Oh, vous voudriez venir à l'église avec moi ?» Et c'est alors que nous avons un service conçu pour cette personne. Eh bien, lorsqu'ils voient qu'il y a d'autres personnes, des dizaines ou des centaines d'autres personnes, peut-être au service de votre église, ils se disent « Oh, c'est pas seulement quelque chose qu'une seule personne croit, il y a d'autres personnes qui croient aussi. » Et il y a beaucoup d'études qui démontrent que les gens qui voient la puissance d'un groupe ou d'autres personnes croient en la même chose, ils prennent la décision de suivre Christ plus rapidement. Ensuite, je vais vous donner un autre principe qui est, il n'y a pas de méthode standard pour préparer un service pour les non-croyants, un service de nature évangélique. Le service que vous préparez doit être ce qui est le mieux pour votre Église. Je ne peux pas vous dire quoi faire dans ce service. Je peux vous donner des principes, mais vous allez devoir inclure votre culture, votre communauté, le genre de personnes que vous voulez toucher et votre cible. Les seules choses non négociables, les seules choses qui doivent être présentes dans un service évangélique efficace, ce sont les trois choses que j'ai mentionnées au début de cette session. Premièrement, vous devez montrer aux gens que vous les aimez au cours du service. Deuxièmement, vous devez partager la parole de Dieu de manière à ce qu'elle soit intéressante et compréhensible et de manière simple. Et troisièmement, vous devez établir un point commun entre la Bible et les besoins personnels des gens. Avec ces principes de base, je voudrais vous partager quelques suggestions concernant la préparation d'un service de louange de nature évangélique. Comment faire pour que votre service attire une foule? Je vais vous donner quelques suggestions. D'abord, planifiez votre service en ayant votre cible en tête. Vous souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la session précédente? Vous devez savoir ce que vous devez prêcher, savoir quel genre de personne vous voulez toucher. Et dans mon église, chaque semaine, quand nous prenons le temps de planifier le sermon, quand nous planifions la musique et quand nous planifions la différente partie du service, nous disons quels sont les genres de personnes qui seront là et quels sont leurs besoins. Maintenant, ce qui fait vraiment une différence, c'est la puissance des vies personnelles transformées. Et il y a quelque chose que chaque église peut faire dans chaque culture, c'est de partager des témoignages personnels. Ce qui change vraiment les gens, c'est lorsqu'ils voient d'autres vies changer. Dans notre église, chaque semaine, au cours du service pour les non-croyants, nous racontons au moins une histoire, l'histoire vraie d'une personne qui explique comment elle a trouvé Christ. Et nous lui demandons d'écrire cette histoire, nous lui demandons de l'écrire s'il sait écrire, et d'y réfléchir, et ensuite de raconter leur histoire au cours du service. Quand le pasteur prêche et enseigne, souvent, un non-croyant le regarde et pense de lui « Oh, c'est ce qu'il doit faire, puisqu'il est payé pour ça, ou bien c'est un professionnel, ou on s'attend à ce qu'il prêche parce que c'est un homme saint. » Mais au contraire, lorsqu'un membre de votre Église partage son histoire et raconte la différence que Jésus-Christ a faite dans sa vie, ils se disent « Oh, cette personne est comme moi. Ce n'est pas un saint, ce n'est pas une personne sainte, ce n'est pas un pasteur ou un prêtre, ce n'est pas un ancien de l'Église. » C'est juste une personne normale, et cela a un impact très puissant. Donc planifiez votre service pour les non-croyants en ayant l'idée d'avoir un témoignage, une histoire personnelle au cours de chaque service. Ensuite, deuxièmement, une autre suggestion, créez une atmosphère où les gens vont vouloir venir au service. Qu'est-ce que ça veut dire, atmosphère? Je veux dire que l'ambiance du service doit être chaleureuse et attrayante. Si vous ne pensez pas avoir une ambiance accueillante dans votre église, alors vous laissez la chance agir. Je vais vous donner des exemples spécifiques qui vont vous aider à planifier un service qui attirera des personnes non croyantes à venir à votre église et à y revenir. Tout comme quand Jésus l'enseignait, il attirait des grandes foules. D'abord, créez une atmosphère expectative, c'est-à-dire enthousiaste. Quand vous commencez votre service, vous avez une attitude telle que « Nous croyons que Dieu est ici, et c'est la journée que Dieu a faite, réjouissons-nous et soyons heureux. Vous allez recevoir des bénédictions, vous êtes venu au bon endroit, et soyez dans l'expectative. » Ce que c'est la foi. Et la foi produit l'humeur qui est ressentie pendant le service. Mais qu'est-ce qui attire les gens dans une église où ils ressentent que quelque chose va se passer, quelque chose de bien va se passer? Qu'est-ce qui crée cette atmosphère? Eh bien, demander à vos membres de prier pour le service chaque semaine est essentiel. Quand chacun amène un ami, cela crée une atmosphère expectative, parce que nous savons que des non-croyants vont assister au service et qu'ils vont entendre la parole de Dieu. Le genre de musique que vous allez choisir doit être un style entraînant et positif et une atmosphère de célébration. Les gens veulent participer à une fête. Quand votre église grandit, plus les gens qui viennent à l'église sont nombreux, plus cela est attirant. C'est comme un aimant, parce que les gens se disent « Oh, quelque chose doit se passer ici. Il y a tant de personnes rassemblées ici. » Ensuite, le plus important, la foi des responsables. C'est l'équipe qui planifie le service. La personne qui va prêcher et enseigner la parole de Dieu, la personne qui va diriger la louange, les gens qui vont prier pour le service, aussi les musiciens qui vont jouer au cours du service, tous les gens qui sont impliqués doivent avoir la foi et croire que Dieu va agir. Chaque semaine, je dis une prière très simple avant notre service. Je dis, Seigneur, je sais que tu vas faire des grandes choses aujourd'hui pendant le service et je t'en remercie d'avance. La foi, c'est remercier Dieu d'avance. Si vous remerciez Dieu après qu'il ait agi, ce n'est pas avoir de la foi, c'est la reconnaissance. Vous êtes juste reconnaissant. Mais quand vous remerciez Dieu à l'avance pour ce qu'il va faire au cours du service, et que vous croyez qu'il va agir, ça, c'est une grande foi. La Bible dit « qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et d'autre part, la Bible dit « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Donc même si vous priez, même si vous chantez, même si vous vous louez, si vous n'avez pas la foi que Dieu va changer des vies au cours de ce service, la Bible dit que tout acte qui ne vient pas de la foi est péché. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc un service ne peut plaire à Dieu que si on s'attend à ce que Dieu agisse, si on s'attend à ce qu'il intervienne, si on s'attend à ce que sa présence soit ressentie et que l'on voit sa puissance à l'œuvre transformant la vie des gens. Vous devez donc créer une atmosphère d'expectative par la prière et par la foi. Une autre attitude à avoir dans votre service de louange, c'est une atmosphère de fête. La Bible lit dans le livre de Psaume, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je ne suis pas triste ou en colère ou ennuyé, mais dans la joie. » La Bible dit dans le Psaume 100 au verset 2, « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Vous savez, il y a beaucoup de services qui ressemblent plus à des funérailles qu'à une célébration. Il y a une atmosphère lourde, très solennelle et très sérieuse. Et pourtant, les gens veulent aller là où c'est vivant. Ils veulent aller là où ils ressentent la joie, là où est le bonheur, là où l'ambiance les attire. Une des manières de créer cette ambiance de fête, c'est de chanter des nouveaux chants. Je voudrais vous encourager à encourager les gens dans votre église à écrire des chants nouveaux. La Bible dit « Chantez à l'Éternel un chant nouveau ». Le problème, c'est que beaucoup d'églises utilisent les mêmes vieux chants. Nous chantons les mêmes chants depuis des centaines d'années. Et ce qui se passe quand vous chantez les mêmes chants tout le temps, 40, 50 ou 60 fois, vous ne pensez plus à sa signification. Il est en fait dans votre mémoire et vous programmez juste votre cerveau pour pouvoir chanter ce chant. Quand les gens chantent un chant nouveau, ça veut dire « Dieu est en train d'agir maintenant. Dieu est en train d'agir parmi nous. Nous sommes dans la joie, ce n'est pas seulement la foi de nos ancêtres, mais Dieu est réel et il agit maintenant. » Et donc écrivez des chants nouveaux et composez des airs nouveaux et de la musique nouvelle. Dieu peut utiliser tous les styles de musique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la musique d'autres cultures. Utilisez la musique de votre culture. Utilisez les rythmes de votre culture. Utilisez les sons et les tonalités de votre culture. Et Dieu va bénir cela. Il n'y a pas de musique sacrée, il n'y a seulement des paroles sacrées. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de musique pourvu que les paroles soient écrites en esprit et en vérité. Ensuite, vous devez créer une atmosphère d'encouragement. C'est un autre moyen de planifier un bon service. Une atmosphère d'encouragement. Vous savez, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans le monde. Et les gens ne veulent pas venir à l'église pour entendre d'autres mauvaises nouvelles. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Et bien sûr, c'est ce qu'est l'évangile. L'évangile signifie « bonne nouvelle ». C'est la meilleure nouvelle qui existe sur la terre. On a la meilleure nouvelle qui existe dans le monde. Parfois, nous la partageons comme une mauvaise nouvelle. Nous devrions sourire, être heureux, être joyeux, parce que nos péchés ont été pardonnés. Nous ne nous soucions plus de notre passé. Nous avons maintenant une raison de vivre. Et nous avons la vie éternelle au ciel. On a la meilleure nouvelle qui existe dans le monde. Donc, vous devez la partager avec enthousiasme et la partager avec encouragement. La plupart des gens ont des problèmes dans leur vie. Ils traversent des périodes difficiles et chaque semaine, ils se sentent découragés. Et quand votre église prend l'habitude d'encourager les gens, chaque semaine, les gens vont se sentir plus légers, ils vont être encouragés et ils vont être inspirés. Et vous allez voir que beaucoup de non-croyants vont venir à vos services rien que pour être encouragés. Et lorsqu'ils viennent pour être encouragés, alors vous pouvez partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec eux. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est créer un esprit de famille. Les gens veulent avoir un sentiment d'appartenance dans votre service. Ils ne veulent pas avoir l'impression que personne ne fait attention à eux, comme s'ils étaient des étrangers. Et ce que je vous suggère de faire, c'est d'avoir des personnes pour accueillir les gens, de sorte qu'avant même de rentrer dans l'église, il y ait des gens pour les accueillir, les saluer, leur sourire et leur serrer la main pour leur dire « Merci de venir à notre service, on est heureux que vous soyez ici. » Les accueillir. Vous pouvez même avoir des places spéciales pour les visiteurs, pour les gens nouveaux, et vous les accueillez, vous les aidez à se sentir à l'aise. Ne les embarrassez pas. Ne leur demandez pas de se lever, de donner leur nom, ou ne leur demandez pas de dire quelque chose de spécial. La plus grande peur des êtres humains, c'est la peur de parler en public. Et la seconde peur que les gens ont, c'est la peur de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ne les effrayez pas en leur montrant leur peur, mais vous pouvez les accueillir personnellement sans les embarrasser publiquement devant les autres personnes. Vous devez avoir un service où les gens se sentent émotionnellement régénérés, détendus et encouragés. Une autre chose que vous pouvez faire dans la préparation d'un service de nature évangélique, si cela est possible, c'est d'écrire sur papier les versets sur lesquels vous allez prêcher ou enseigner et mettez-les sur papier pour qu'ils puissent les lire. Un grand nombre de personnes ont peur de la Bible si elles sont non-croyantes. C'est un livre qui les effraie. D'abord parce que ce livre est très différent des autres livres qu'ils connaissent. Il y a des numéros devant chaque phrase et beaucoup de gens ne lisent même pas. Alors, que faut-il faire? Eh bien, d'abord, si c'est possible, écrivez ces versets bibliques sur une feuille de papier. Et quand les gens viennent à l'église, donnez-leur cette feuille de papier. Parce que si vous dites, aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Jean, ils ne savent pas où se trouve le livre de Jean, ils n'ont jamais vu ce livre. Et donc, ils vont avoir l'air gênés de voir que tout le monde trouve le verset très vite, et eux, ils ne savent pas où c'est. Mais si vous écrivez ces versets sur une feuille de papier, alors tout le monde a la même feuille de papier, tout le monde peut le lire ensemble, même les non-chrétiens, qui ne savent pas où chercher dans la Bible. Et cela les détend. Pourquoi voulons-nous que les non-chrétiens soient détendus? Parce que quand ils sont détendus, ils sont plus ouverts pour écouter la bonne nouvelle. Quand les gens viennent à l'église, souvent ils ont peur. Ils ont peur. Est-ce que je dois chanter quelque chose? Est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je dois signer quelque chose? Est-ce que je dois donner de l'argent? Ou est-ce que je dois réciter un rituel que je ne connais pas? Est-ce que je vais être embarrassé si je fais quelque chose de mal? Donc, tout ce que vous faites au cours du service pour atténuer ces craintes, c'est-à-dire les accueillir, rendre les versets bibliques accessibles en les écrivant sur une feuille de papier, chanter des chants dont ils peuvent comprendre les paroles, et ainsi de suite. Des petites choses, et vous pouvez en ajouter d'autres. Cela va les aider à être détendus, et lorsqu'ils sont détendus, ils écoutent plus attentivement, et lorsqu'ils sont attentifs, Jésus-Christ peut alors venir dans leur cœur. Ce que vous faites, c'est construire un pont d'amour de votre cœur à leur cœur, et vous laissez Jésus-Christ traverser ce pont. Une autre suggestion que je voudrais vous faire quand vous planifiez un service de nature évangélique, c'est de toujours donner la possibilité de recevoir Christ. et de s'attendre à ce que les gens vont répondre. Donnez toujours la possibilité de recevoir Christ dans votre service et attendez-vous à ce que les gens y répondent. Souvent, les gens prêchent la bonne nouvelle, mais c'est comme pêcher sans remonter le filet. Ou bien c'est comme pêcher sans remonter sa ligne. Et ils disent seulement, « Voilà la bonne nouvelle, maintenant rentrez chez vous. » Ce que vous devez faire à la fin de chaque service, c'est de toujours terminer par au moins une prière. Vous pouvez dire, si vous voulez accepter Christ, priez cette prière dans votre cœur. Et vous pouvez dire cette prière à haute voix. Et les gens prient dans leur esprit. Quand j'ai commencé l'église de Saddleback en Amérique, nous avons une tradition qui est d'inviter les gens à venir devant à la fin du service pour accepter Christ. Et c'était ma tradition, et je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, le premier service que nous avons eu, le service avait lieu dans un lycée. Et je prêchais, et j'avais prévu le suivant, d'inviter les gens à venir devant s'ils veulent accepter Christ. Mais vers la fin du service, j'ai levé la tête et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de place pour que les gens viennent devant dans cette église, dans cette salle. C'était un petit auditorium, et il n'y avait pas de place. J'ai donc dû inventer d'autres moyens pour que les gens puissent accepter Christ. Une des choses que nous avons faites dans notre église, c'est d'avoir des petites cartes que nous plaçons sur chaque chaise. Et à la fin du service, quand je termine, je dis, si vous voulez inviter Christ dans votre cœur, baissons nos têtes, nous allons tous prier et je vais dire une prière. Et je dis, vous pouvez prier cette prière dans votre tête, il n'est pas nécessaire de prier à haute voix, Dieu vous entendra, il sait ce que vous pensez maintenant. Et je dis la prière du pécheur, Jésus-Christ, s'il te plaît, viens dans ma vie. Ensuite, je m'arrête et je dis, dites cela avec moi. Je veux que tu sois le Seigneur et Maître de ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. S'il te plaît, pardonne mes péchés et s'il te plaît, accepte-moi dans ta famille. Je désire te suivre au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, je leur dis, si vous avez dit cette prière, regardez-moi. Et je dis aux gens qui sont là, au service de l'Église, je leur dis, vous savez, si vous avez prié cette prière, c'est la plus importante que vous ayez priée, c'est le début d'une vie nouvelle de la vie chrétienne. On veut vous aider à grandir en tant que chrétien, et on a du matériel qui vous aidera, et il y a des personnes à qui vous pouvez parler. Si vous nous faites savoir votre décision, et ce qu'on fait dans notre église, vous pouvez d'ailleurs essayer. On a des petites cartes où les gens peuvent écrire leur nom et leur adresse, s'ils ont une adresse, et s'ils habitent dans cette ville. Et au dos, il est écrit « J'ai donné ma vie à Christ aujourd'hui, j'ai prié cette prière ». Et il y a aussi d'autres décisions. Nous donnons des crayons pour qu'ils puissent cocher les cases, puis ils nous la donnent. Et lorsqu'ils partent, ils la donnent, ils peuvent la remettre à quelqu'un près de la porte ou ils peuvent la mettre dans l'offrande. Si vous avez une offrande dans le panier, c'est une des manières où vous pouvez découvrir les gens qui ont accepté Christ au cours du service. Une des choses que je voudrais vous encourager à faire, c'est de faire un bilan de votre service. Les responsables de votre église, après chaque service, devraient se réunir, soit le même jour ou le jour suivant, et se demander « Que pouvons-nous améliorer pour dimanche prochain ?» Cherchez toujours à améliorer, cherchez toujours à développer des nouvelles idées pour partager l'Évangile de manière plus efficace. Si vous priez à ce sujet, et si vous demandez à Dieu de vous donner des nouvelles idées, il le fera, et beaucoup de personnes vont venir à Christ.